Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
Heure 19h30, RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Bonsoir à tous. À une semaine du second tour, ils ne lâchent rien. Pas une minute de repos pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche est en ce moment au mémorial de la Shoah à Paris. Sa rivale a passé la matinée à Gardanne, près de Marseille, devant l'usine Alteo, critiquée pour ses rejets de boue rouge. Deux soutiens de poids des candidats étaient au grand jury tout à l'heure, François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan. Le premier a mis en cause les capacités du second à diriger un gouvernement. Vous les entendrez. À suivre également dans ce journal, l'enquête sur l'agression sauvage contre un jeune étudiant parisien, les fleuristes qui préparent déjà le muguet du 1er mai, et on reviendra sur la formidable journée des voitures d'époque, des centaines de rassemblements aujourd'hui partout en France. On va aller en Alsace, ambiance nostalgie. Les sports, football, 35e journée de Ligue 1, belle victoire de l'OM en Normandie cet après-midi. Les Marseillais l'ont emporté 5-1 avec un triplé de Florian Thauvin. L'OM prend provisoirement la 5e place, synonyme de Coupe d'Europe. Depuis 17h, Dijon, qui se bat pour ne pas descendre, reçoit Bordeaux, qui lorgne une place européenne. À Dijon pour RTL, on retrouve Frédéric Joly. Bonsoir.
Bonsoir. Et le coup d'envoi de la seconde période vient d'être donné à l'instant même. Et le score est de 0-0 entre Dijon et Bordeaux.
En rugby, en début d'après-midi, La Rochelle s'est fait peur, mais les Rochelais ont finalement battu Montpellier 40-37 en match de top 14. Actuellement au stade Jean Bouin, le derby francilien entre le Stade français et le Racing. C'est très serré, Olivia Leray.
Oui, c'est la mi-temps ici à Jean Bouin. Le Racing 92 qui vient de revenir à 13 partout. Et c'est sous les poteaux de l'Olala pour les stadistes. Et c'est en solitaire de Sergio Parissier sur une interception.
Les courses, Quintet Plus à Chantilly cet après-midi. Combinaison gagnante 13, 7, 5, 4 et 9. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La tendance météo, attention, 11 départements sont toujours en vigilance orange dans le sud-ouest.
Oui, on a de gros orages encore à l'heure qu'il est. Ça concerne les départements allant de l'Ariège et de l'Hérault jusqu'à la Haute-Vienne et à la Creuse. Bon, c'est une vigilance qui va durer encore une heure, pas plus. On a de gros orages actuellement du Tarn jusqu'au Cantal, des orages qui vont se décaler peu à peu vers la Bourgogne et vers l'Auvergne la nuit prochaine.
Merci Valérie, prévision complète dans 20 minutes.
RTL dimanche soir.
Avec Philippe Robuchon.
C'est un mano à mano, aucun temps mort, aucun moment de répit. Marine Le Pen et Emmanuel Macron mettent leur dernière force dans la bataille à une semaine du second tour. Ce dimanche est la journée du souvenir des victimes de la déportation. Voilà pourquoi, depuis 1h et 48 heures après sa visite à Oradour-sur-Glane, Emmanuel Macron se trouve au mémorial de la Shoah à Paris, dans le quartier du Marais. Bonsoir Vincent Derosier, vous êtes à ses côtés.
Bonsoir.
Vous êtes au côté.
Oui, alors Emmanuel Macron est arrivé un peu après 17h ici. Il a salué les quelques passants qui l'attendaient devant le mémorial et qui l'ont applaudi. Il est allé se recueillir ensuite devant le mur où figurent les 76 000 noms des Juifs déportés, parmi eux 11 400 enfants. On lui a montré des archives, notamment sur le Veldiv, la carte des camps de concentration en Europe également. Et puis il est allé voir quelques-uns de ces visages d'enfants déportés. Alors après le génocide arménien, vous l'avez dit, puis son passage à Oradour-sur-Glane vendredi, Emmanuel Macron poursuit ses déplacements mémoriels. Et bien sûr, tout cela a un sens politique. C'est ce que confirme sa porte-parole Laurence Haim.
On assiste à des discours d'une violence extrême de la part du Front National. On a vu ce que Marine Le Pen a fait à propos du Veldiv. Et donc, c'est très important pour Emmanuel Macron de montrer que par un devoir de mémoire, on n'oublie pas. L'extrême droite n'arrive jamais de force au pouvoir. L'extrême droite arrive souvent par le suffrage universel. L'histoire peut toujours se répéter. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce qu'on entend, par rapport à la violence de cette campagne.
À une semaine du second tour, Emmanuel Macron s'attaque frontalement à tous ceux qui veulent réécrire l'histoire. Il a fait pendant sa visite plusieurs allusions à Marine Le Pen et au Front National. La bataille du projet, il l'amènera toute la semaine qui vient, demain à la Villette pour un grand meeting et puis en fin de semaine dans le sud-est de la France, dans des villes où le Front National a réalisé de très bons scores au premier tour.
Merci Vincent Derosier. Une journée des déportés, je le précise, que Marine Le Pen a également célébré à sa façon discrètement ce matin à Marseille. Elle a déposé une gerbe devant une stèle commémorant l'arrestation de 30 enfants juifs et de leur mère par la Gestapo en 1943. Auparavant, la candidate avait organisé une visite surprise sur le thème de l'écologie. Visite ce matin devant l'usine Alteo à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Alteo, c'est l'usine qui rejette les fameuses boues rouges en Méditerranée. Seulement voilà, Marine Le Pen n'avait prévenu personne et elle a trouvé porte close, Hugo Hamelin.
Oui, pas de rencontre avec la trentaine de salariés d'Alteo présents ce dimanche. Et pour cause, l'entreprise n'était pas prévenue du déplacement de la candidate et a préféré fermer ses grilles pour l'empêcher de rentrer sur le site.
Bon, allez, c'est pas grave.
Demi-tour donc, Marine Le Pen s'est rabattue sur un sentier escarpé, rougi par l'alumine, symbole des déchets industriels d'Alteo, le tout entouré d'une quinzaine de journalistes.
Ah là, si vous me cassez dans mon élan.
Allez, on recule. Voilà.
Son message se veut écologiste, ne pas sacrifier les 500 emplois de cette usine, mais réduire rapidement les rejets de boue rouge.
Dire qu'on peut faire quelque chose sur un sujet aussi important que celui-là, encore une fois, l'État stratège doit agir en coopération avec l'entreprise pour que ce ne soit pas l'emploi qui pâtisse de la protection environnementale, mais qu'en même temps, ce ne soit pas non plus les habitants qui pâtissent de la préservation de l'emploi.
Marine Le Pen, qui avant de repartir en avion à la mi-journée, a déposé une gerbe de fleurs en souvenir d'une trentaine d'enfants marseillais déportés lors de la Seconde Guerre mondiale.
Hugo Hamelin à Gardanne pour RTL. À la mi-journée, RTL avait invité non pas les candidats eux-mêmes, mais deux de leurs principaux soutiens. François Bayrou pour Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan pour Marine Le Pen. Alors on commence par François Bayrou. Le président du Modem a d'abord réagi au ralliement du président de Debout la France à Marine Le Pen et à son éventuelle nomination à Matignon.
Ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan marque l'affaiblissement moral auquel la vie politique du pays s'est abandonnée. Prétendre que Nicolas Dupont-Aignan va être le Premier ministre de la France dans 15 jours, c'est dire à quel point on en est arrivé de perte d'équilibre. Mais c'est un symptôme extrêmement grave du fait que le pays a perdu la boussole.
Voilà pour François Bayrou. Quelques minutes plus tard, Nicolas Dupont-Aignan, dans le grand studio de RTL, lui a succédé. Il a justifié son ralliement à Marine Le Pen.
J'ai en conscience fait un choix historique en disant aux Français, oui, je veux tout faire pour faire battre M. Macron qui va vous tuer à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie nationale. Mais... Et justement, j'ai été au-delà. Je ne me suis pas rallié au Front National, pas du tout. J'ai négocié, oui, j'ai eu le courage d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire, on a une responsabilité historique, vous et moi. Vous d'évoluer et moi d'évoluer. Et on va sauver la France ensemble. Et ça, c'est le plus beau moment de mon histoire politique.
Nicolas Dupont-Aignan, au grand jury, a noté que plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté aujourd'hui à Hyères, la ville de l'Essonne dont il est le maire. On le réentendra tout à l'heure, ainsi que François Bayrou, dans le MacPol, à partir de 18h20, sur le thème clé de cet entre-deux-tours, le rôle de l'Europe. Il est 18h07, la suite du journal dans un instant sur RTL, avec l'enquête sur l'agression barbare dont a été victime un jeune étudiant parisien.
RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
RTL vous l'a raconté ce matin, c'est une attaque particulièrement sauvage dont a été victime un étudiant parisien. On l'a retrouvé entièrement nu, en état d'hypothermie, très gravement blessé dans une zone boisée à Boran-sur-Oise, près de Chantilly. Après enquête, les gendarmes et les policiers ont découvert que ce jeune homme avait été torturé par 4 autres jeunes hommes pendant de longues heures parce qu'il refusait de donner le code de sa carte bleue. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
En fait, tout avait commencé à Paris à la sortie d'une soirée.
Oui, ce mercredi 19 avril dans les rues de Paris, il est 2h du matin quand 4 personnes s'arrêtent en voiture à hauteur d'un jeune de 25 ans, lui proposent de le ramener chez lui. L'étudiant accepte, c'est là que l'enfer commence. Sur la banquette arrière, les agresseurs frappent le jeune homme, volent son portable, sa carte bancaire, puis tentent de retirer de l'argent sur la route sans succès. Il s'arrête ensuite près d'un village de l'Oise dans un bois. Là, il torture la victime, sourcils brûlés, les yeux mutilés, des violences sexuelles. Au petit matin, une promeneuse découvre le jeune homme nu, à peine conscient, en état d'hypothermie. Il souffre de multiples fractures. Aujourd'hui, hors de danger, la victime ne se souvient pas de cette nuit d'horreur. Les 4 agresseurs sont retrouvés une semaine plus tard. 2 hommes connus des services de police et 2 jeunes de 15 et 17 ans, originaires de l'Oise. Ils ont avoué leurs gestes sans pour autant avoir de regrets. Placés en détention provisoire, ils sont mis en examen pour actes de torture et tentative d'assassinat.
Merci Alice Moreno. Information collectée par Elisabeth Fleury du service police-justice de RTL. Un TGV reliant Marne-la-Vallée à Marseille arrêté pendant 1h30 ce matin en gare de Lyon-Saint-Exupéry. À bord, un homme avait proféré des menaces de mort contre des contrôleurs. Les 1000 passagers ont dû être évacués. Le train a été fouillé par des chiens renifleurs. Le TGV a pu repartir. L'homme a évidemment été arrêté. La mort de l'un des plus grands alpinistes du monde, le Suisse Uli Steck. Il a été retrouvé sans vie sur les pentes de l'Everest, probablement après une chute. Il avait 40 ans. Il était surnommé « la machine », tellement il enchaînait les sommets à une vitesse vertigineuse. Ce sera sans doute l'une de vos activités prioritaires demain 1er mai. Achetez un ou plusieurs brins de muguet. Les vendeurs vont fleurir, si j'ose dire, au coin des rues. Pour ce qui est des professionnels, les fleuristes en magasin, et bien chez eux, la chasse aux brins a déjà commencé ce dimanche. Arnaud Grange a pu le vérifier à Lyon dans un kiosque à fleurs du 6e arrondissement.
L'odeur du muguet embaume son kiosque. Aucun doute, nous sommes bien à la veille du 1er mai. Alice, elle, termine les derniers préparatifs.
On fait en sorte de préparer au maximum les pots qui sont prêts à emporter. Donc on les emballe pour que les gens gagnent du temps. Après, les brins, on prépare les classiques, 3, 5, 10, quelques 20, 25. Et souvent, au dernier moment, on prend des compos et les gens rajoutent les brins qu'ils veulent.
Cette fleuriste espère écouler entre 300 et 400 brins de muguet d'ici à demain soir. Les ventes ont déjà commencé, car beaucoup de clients ont anticipé cette année en raison de ce week-end prolongé.
1er mai tombe un lundi férié, donc les gens partent. On est dans un quartier où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc on a vu nos clients habitués qui sont venus le samedi matin, qui nous ont pris. C'est pour ça qu'on a préparé un peu en avance cette année. On ne sait pas demain du tout à quoi on va s'attendre.
Achat anticipé justement pour cette cliente venue en début d'après-midi.
Je voulais absolument offrir un petit brin de muguet ce soir à mes parents. Voilà, comme demain c'est le 1er mai, que je ne les verrai pas demain. C'est le petit clin d'œil du muguet pour le 1er mai.
Il faut compter entre 1 et 4 euros le brin à conserver dans les pièces fraîches à l'abri des courants d'air.
Un reportage d'Arnaud Grange à Lyon pour RTL. Et puis ce dimanche était également un jour historique pour tous les amoureux de vieilles voitures, la première journée nationale des véhicules de collection. Pas seulement voitures d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu au bord des routes des camions, des motos, des tracteurs anciens. Impossible évidemment de vous raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs centaines de manifestations. Alors arrêtons-nous sur l'événement tout à l'heure, sur les petites routes d'Alsace. On était à Obenheim, entre Strasbourg et Colmar. Yann Nicolan.
Oh là là, bien, bravo! Magnifique!
Laurent et ses amis ont sorti les chaises pliantes et l'apéro sur le trottoir devant la maison pour un spectacle hors norme. 400 voitures de collection qui défilent à travers l'Alsace.
Il y en a beaucoup qui font rêver quand on les voit dans l'état où elles sont. Il faut quand même penser que c'était le début de l'automobile, tout ça. Hein.
Bah, moi, c'est plus les américaines. Calandre en chrome, la belle grosse limousine.
Dans le défilé, quelques trésors comme cette Delage type Torpedo 1926. Au volant, Rennes.
Un temps comme ça, on a bonheur à rouler, c'est fantastique.
Elle monte jusqu'à combien?
Oh, ça se demande pas pour une ancienne. Sur une route droite, sans faire de problème, entre 70 et 80, elle va bien, la petite. Une journée comme aujourd'hui permet vraiment aux gens de se rendre compte. Il y a un monsieur qui m'a dit « Madame, je vous remercie de m'avoir offert un quart d'heure de ma jeunesse ». C'est pas beau, ça?
Et pour retrouver votre jeunesse, une immense vente aux enchères de 160 véhicules d'époque aura lieu demain à Obenheim. Comptez entre 200 euros et 1 million d'euros pour acquérir l'une de ces pièces de collection.
Un reportage de Yannick Collant, très sympa, sur les petites routes d'Alsace. On revient au sport, en direct, la 35e journée de Ligue 1 de football. Toujours pas de but entre Dijon et Bordeaux, Frédéric Joly.
38 minutes de jeu, toujours pas de but entre les deux équipes. Il y a eu deux belles occasions, une de chaque côté. C'était en première période. La tête de Laborde, le Bordelais, sorti par René, le gardien dijonnais. Et puis le gardien Carasso a dû s'employer, lui, devant Varro, le défenseur dijonnais. Depuis, plus grand-chose. Une rencontre cadenassée. On a bien du mal de part et d'autre à s'approcher du but adverse. 0-0 après un petit quart d'heure de jeu en seconde période.
Merci Frédéric. Je vous rappelle que ce soir, le Paris Saint-Germain à 21h joue à Nice. Le PSG doit absolument s'imposer pour rester dans la course après la victoire de Monaco hier soir. Le rugby, le derby francilien, Stade Français Racing sous une pluie diluvienne. Où en est-on, Olivia Leray?
Exactement, de la pluie et du vent. 47 minutes de jeu, 27-13 pour le Stade Français qui est repassé devant en tout début de première période. Essai de Djibril Camara, la 41e dans le coin gauche, et de Jonathan Danti à l'instant à la 45e. Notez qu'il y a deux cartons rouges depuis la 36e minute. Loré pour les Ciels et Blancs et Papé pour les Stadistes après un conflit près des 40 mètres. 47 minutes de jeu donc et 27-13 entre le Stade Français et le Racing.
Merci Olivia. En Formule 1, deux Ferrari étaient en première ligne du départ du Grand Prix de Russie. C'est pourtant une Mercedes qui l'a emporté cet après-midi. Première victoire en F1 du Finlandais Valtteri Bottas. Coup de chapeau au passage au jeune Français Esteban Ocon, 20 ans, il termine 7e. En tennis, le Français Lucas Pouille a remporté aujourd'hui le deuxième titre de sa carrière. C'était à Budapest. La météo, Valérie Quintin. Demain, le maître mot de la semaine, demain et toute la semaine d'ailleurs, oui. Ça va être instabilité.
C'est ça. Alors, on va juste faire le point rapidement sur les orages de ce soir. On a une très grosse concentration orageuse entre le Tarn et la Corrèze. Des orages qui vont se décaler peu à peu vers l'Auvergne et vers le Languedoc au cours de la soirée. Et la ligne de pluie remonte jusqu'aux portes de Paris et de la Normandie. Et demain, on va retrouver un temps très instable partout avec un maximum de pluie plutôt sur les régions à l'est, justement, puisque ce seront celles d'aujourd'hui qui finiront leur course là-bas avec une limite pluie-neige à 1000 mètres. À l'arrière, des grains orageux très fréquent, une meilleure chance de soleil quand même près de la Méditerranée et des températures qui vont commencer à baisser à nouveau. 2 à 11 degrés demain matin de Rodez à Nice avec 8 à Paris, 11 à 19 l'après-midi, 16 à Paris, à Toulouse et à Grenoble.
Alors pour le reste de la semaine,
ça reste exactement pareil. Alors quand même, vendredi ça pourrait bien se terminer, on pourrait avoir une journée assez bien ensoleillée. Sinon mardi et mercredi, toujours des orages. Alors mardi plutôt dans la moitié sud, mercredi plutôt dans la moitié nord avec des températures qui vont continuer de baisser un peu. Jeudi, il restera quelques grains encore sur le nord-est, mais de moins en moins. Et puis vendredi, une journée plutôt bien ensoleillée, à nouveau plus douce avant une nouvelle dégradation orageuse prévue pour samedi qui devrait passer assez rapidement, ce qui veut dire que dimanche pourrait être pas trop mal en principe.
Bon, donc le mois de mai ne démarre pas sous les meilleurs auspices.
Non, pas tout de suite.
Merci Valérie Quintin. Dans un instant sur RTL à 18h17 pile, la suite de RTL dimanche soir avec le MacPol, le magazine politique de la rédaction.
Vous écoutez RTL.